véhicules motorisés par l'énergie électrique. Alors, il y avait un débat sur une radio périphérique qui portait sur cet avenir électrique avec des questions qui étaient posées. Bien sûr, sur la quantité d'énergie qui serait nécessaire pour cela et la manière dont on pourrait résoudre, par exemple, des pics de consommation. Alors, effectivement, il était fait état de recharge, par exemple, dans une population dense, au même moment, comment on allait résoudre ces problèmes de surcharge d'énergie nécessaire à des moments donnés de la journée. Alors, évidemment, là, vous voyez qu'on va toucher le problème qui est le nôtre dans cette émission de l'urbanisme et de l'art d'habiter, puisque un des arguments qui a été posé par une personne présente, spécialiste là donc, dans ce débat, était de dire il y a des solutions qui sont individuelles. Par exemple, dans une maison individuelle, on peut avoir un mix énergie qui est fait par une éolienne individuelle et par un panneau solaire, et la possibilité, pendant les heures d'ensoleillement dans la journée ou de vent éventuel, de stocker l'énergie. Et cette énergie stockée peut servir après pour faire les besoins domestiques et pouvait être également exportée, c'est-à-dire on aurait une sorte de compensation, de diffusion de l'énergie, ce qui est évidemment assez intéressant. Mais ça pose un problème, c'est justement, on parlait de maisons individuelles. Et là, on est au cœur du problème, puisque la trame de tout ce discours est un discours, on peut dire, moralisateur, un discours de vertu. Alors, il y a un discours de nécessité d'une part, et puis il y a un discours de moralisation qui est lié à l'environnement, le réchauffement climatique et les économies d'une manière générale d'énergie. Alors, effectivement, on se trouve sur un problème dont j'ai déjà parlé et qui me paraît essentiel, d'autant plus essentiel qu'il est escamoté. C'est, et vous l'aurez compris, le choix qu'il y a entre une dispersion, par exemple, de l'habitat et également une individualisation de cette production, donc qui serait beaucoup plus, on peut dire, individuelle, communautaire, que centralisée. Centralisée, évidemment, à quoi on pense? Ben, on pense aux centrales atomiques, qui effectivement sont une décision de l'État central, et avec une production qui est non seulement pour la nation, mais en plus ça qui peut être exportée aux pays voisins, ce qui a été le cas de la politique énergétique française, on peut dire, depuis le dernier demi-siècle. Alors, on est au cœur on peut dire, de ce qu'est l'écologie. Et j'en ai, encore une fois, je me répète, mais j'en ai déjà parlé, c'est un problème qui est mis sous le tapis. En fait, on a d'une part, on peut dire, l'historique de l'écologie qui est d'abord, on peut dire, qui arrive d'outre-Atlantique, qui arrive des États-Unis, un pays qui a une conscience beaucoup plus grande du rapport à la nature par rapport aux civilisations européennes qui sont déjà dans des transformations de la nature avec des paysages qui sont entièrement, on peut dire, artificialisés, bien que le mot aujourd'hui est totalement déformé puisque on pense que artificialiser c'est uniquement quand il y a du béton ou du goudron. Mais artificialiser, ça veut dire qu'en fait, il n'est plus, ces paysages ne sont pas naturels, ce qui est le cas d'une très grande partie de nos paysages. Alors, ce qui n'était pas le cas de la nature américaine, pour les raisons que l'on connaît historiques, d'un pays, d'un continent très peu peuplé et avec une nature qui effectivement n'a pas été modifiée par l'homme. Donc il y a ce rapport qui est un rapport totalement différent. Et de ce fait, au début du 19e siècle, il y a donc ces sociétés d'écologie qui sont créées. Et donc, on a un rapport politique, on peut dire, qui est totalement différent, puisque on est sur d'abord une grande dispersion sur un très vaste territoire, en communauté, et on sait aussi que le peuplement de l'Amérique est un peuplement qui est fait de communautés qui viennent linguistiques, de communautés religieuses, de communautés qui viennent de lieux géographiques totalement différents. Donc on a des vagues d'immigration et on a un pays qui lui-même est divisé en état, en fédération, et puis on a on peut dire une multiplication de communautaires en comtés et en communautés qui sont, comme je vous disais, religieuses, ethniques. Donc, on est dans un rapport différent de pays comme le nôtre avec des unités. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, justement, ce rapport entre État central et communauté est un rapport qui, on peut dire, est permanent dans la vie américaine et c'est un débat qui s'est passé en France, mais pas avec autant d'acuité. Alors, l'écologie, pour revenir à cela, puisque elle est historiquement importée des États-Unis et c'est un mouvement qui est essentiellement un mouvement, on peut dire, conservateur, au sens où on veut conserver la nature et puis aussi on veut conserver des formes sociales que l'on ne veut pas voir s'agréger, se déformer dans un certain statu quo assez individualiste et communautaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive quand ce mouvement arrive dans, on peut dire, dans les années 60, en Europe. Alors, pour des raisons historiques que l'on connaît, la chute du mur de Berlin et la fin du maoïsme, on peut dire que toute l'idéologie qui se portait sur les utopies communistes se trouve orpheline et va progressivement à la fois capter l'écologie comme substitution et comme nouveau support, et puis petit à petit éliminer justement toutes les personnes qui étaient justement, on peut dire, dans ce monde conservateur. Alors, l'histoire est assez sérieuse, puisque en fait, on a une vision qui va être avec, on peut dire, les néo-marxistes, une vision qui est centralisée et qui est à l'opposé justement de cette opposition, de cette notion individualiste et en petite communauté. Alors là, on a par exemple, pour revenir à notre habitat et à nos maisons, on a la vertu, puisque c'est le mot qui est employé, qui va être le logement dense et l'interdiction de construire, et notamment le haro sur la maison individuelle, sur l'étalement urbain, le mot terrible, et il faut préserver la nature et rénover les villes, construire en densité, monter la hauteur des immeubles. On est évidemment totalement à l'envers de cette vision beaucoup plus ruraliste et qui est au contraire basée sur la dispersion en communauté sur les territoires et de ce fait avec la possibilité d'avoir des énergies à la fois diversifiées et aussi autonomes et ne dépendant pas d'un État central. Donc on se trouve devant cette opposition et quand j'ai entendu ce matin l'appel à la maison individuelle comme solution des problèmes de l'énergie, évidemment, ce n'était pas sans me rappeler ce que avait dit l'ancienne ministre, Madame Wargon, qui était ministre du Logement, que la maison individuelle devait être finie parce qu'elle était justement à bannir, alors non vertueuse bien sûr, et que on ne pouvait avoir que des habitats denses et surtout par superposition et non plus par développement avec ce mot terrible d'artificialisation des terres. Voilà donc, on se trouve sur un débat. Ou plutôt sur un débat qui n'a pas lieu, mais qui est sous-jacent. Et ce que j'essaie de poser, effectivement, c'est ce débat qui me paraît fondamental et que l'on essaie d'échapper et qui me paraît, à mon avis, là je donne mon avis, à l'origine du malaise actuel que vit notre pays, puisqu'en fait, il est pris entre, d'une part, cette importation anglo-saxonne d'un modèle qui n'était pas le nôtre, et puis aussi ces idéologies, on peut dire, dans cette tradition française de la Révolution, peut-être aussi du centralisme plus ancien de la royauté, et aussi de l'idéologie qui était portée par une gauche, on peut dire, si elle n'est pas révolutionnaire, en tout cas profondément réformatrice. Bon, on va marquer une pause musicale.
Un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. C'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change.
Avec un sujet d'actualité. Alors, le sujet d'actualité est différent de ce que je disais avant la pause musicale, puisque je vais vous parler de l'événement qui vient de se tenir, qui nous touche, on peut dire, en tant qu'Occitan, puisqu'il s'agit des funérailles qui ont eu lieu à Paris, et pas à Rodez ou à Sète, Sète étant la résidence de l'artiste Pierre Soulages, et à Rodez, qui était son lieu de naissance, le lieu où est son musée. Donc, comme l'on sait, Pierre Soulages est mort à 102 ans, ce qui est un âge évidemment très avancé, et cela a donné lieu à un hommage national. Donc c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est assez singulier, d'une part, parce que les artistes, on dit plasticiens aujourd'hui, en tout cas les peintres, les sculpteurs, les architectes, ne sont pas conviés à ce type d'hommages qui sont réservés aux scientifiques, par exemple aux grands scientifiques, l'entrée au Panthéon de Marie Curie et de son mari, également les personnalités comme Le Corbusier était assez exceptionnel puisque ça remonte à Malraux, mais on est plus habitué à avoir des hommes de lettres. Dernièrement, ça a été l'hommage qui a été rendu à Jean d'Ormesson, mais qui était une figure, on peut dire, populaire assez importante, ou alors à des artistes de cinéma ou de théâtre, comme Michel Bouquet ou Belmondo également. Donc, c'est assez singulier puisque on peut dire que l'unanimité ne se fait pas sur les artistes. Alors, le cas de Le Corbusier est un peu particulier parce que justement, il n'y avait pas une, on peut dire, une unanimité. Et il y a d'ailleurs toujours des polémiques au sujet de celui que je considère comme un des grands architectes du XXe siècle. Mais en ce qui concerne les peintres et les sculpteurs, on sait que cela fait l'objet de polémiques, des polémiques tout à fait d'ailleurs justifiées, puisque on n'est pas dans le domaine de la science et que les goûts sont à discuter, que le débat esthétique est quelque chose de sain. Donc, on peut dire que c'est la raison pour laquelle les artistes y échappent. La deuxième raison aussi, c'est que on peut dire que la peinture, l'art pictural, par rapport au cinéma qui a pris certainement une grande partie de la place qui était occupée par cette discipline, eh bien, aujourd'hui, les noms ne sont pas aussi connus qu'ils ont pu l'être. Même, par exemple, pour l'époque des impressionnistes, on a pu voir dans les émissions de télévision d'Arte, par exemple, que la mort de peintres comme Degas faisait les grands titres des journaux, aujourd'hui, beaucoup moins, et ce qui rend d'autant plus singulier cet hommage. Mais ce qui est vraiment singulier, c'est justement l'art de Soulages, et justement, j'aimerais m'attarder sur cela et en faire l'essentiel de cette deuxième partie de la chronique. En effet, Soulages, on peut dire, a eu deux périodes, ce qui n'est pas énorme pour un peintre. Par exemple, on sait que Picasso, tout le monde connaît les premières œuvres, la période rose qui était assez figurative, puis la période cubiste. Enfin, il y a toute une série de périodes de l'évolution d'un peintre qui, d'ailleurs, avait vécu longtemps et a peint jusqu'à la fin de sa vie, même s'il n'a pas atteint la longévité de Pierre Soulages. Mais dans le cas de Pierre Soulages, on a donc une première partie. On peut dire qu'il fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'abstraction lyrique et qui est un mouvement américain. Donc il n'en est pas à l'origine. Il y a des peintres qui ont vécu avant lui, qui ont 10 ans de plus que lui, dont les noms sont Franz Kline, sont Robert Mosowell, sont Jackson Pollock, qui ne sont pas, on peut dire, très populaires, mais même si on a vu avec un film sur Pollock qui l'a fait connaître. Mais on peut dire que c'est une peinture qui est assez, peut dire confidentiel, ce n'est pas très populaire, ce n'est pas connu comme les tournesols de Van Gogh et qui font l'objet de jets de soupe de tomates. Parce que justement, c'est leur notoriété. Donc personne ne va jeter de la soupe de tomates sur les Pollock parce que les gens ne sauraient pas ce qu'est justement les drippings, ce qu'on dit en anglais, les coulages, la matière coulée de Pollock. Alors, en gros, il s'agit de la peinture abstraite et qui est faite par des gestes rapides. Et en France, on a aussi Mathieu, que j'oubliais, mais aussi on a des peintres comme Marfin, qui est aussi un Toulousain, qui s'exprime d'ailleurs de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des grands graphismes sur les toiles, plus ou moins grandes, et qui montrent le geste, qui sont faits d'une manière assez rapide. Donc, ce mouvement, qui ne s'est pas prolongé d'ailleurs très très longtemps, a eu son heure de gloire. Et Pierre Soulages, qui n'a pas été un peintre fondateur de ce mouvement, mais qui en faisait partie, faisait partie, on peut dire, du paysage de tous ces peintres. Et il a eu un coup de génie, c'est que, au lieu de faire justement ces zébrures sur les toiles, ces zébrures foncées, noires ou marron, avec quelques éclairs de bleu ou de jaune, donc qui apportaient des touches de couleur. Il a eu l'idée, on peut dire, de faire des monochromes totalement noirs. Alors, le monochrome, ça veut dire des peintures d'une seule couleur, évidemment, ça peut surprendre les gens, puisque le propos de la peinture, c'est justement de représenter des choses et avec des diversités de formes et de couleurs. Et là, il s'agit de monochrome. Alors, le premier, historiquement, qui se prétend comme tel, c'est Carré blanc sur un fond blanc du peintre Malevitch. Alors, c'était, on peut dire, une provocation dans l'après-guerre, dans le mouvement moderne, qui était on peut dire, iconoclaste, qui se voulait révolutionnaire. Et c'est ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait à la fois de la provocation, de la dérision. Et on a eu d'ailleurs la même chose après la Seconde Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale, on voit notamment le phénomène de Duchamp qui transforme un urinoir en œuvre d'art. Donc on a une peinture qui est une sorte de destruction de la peinture classique traditionnelle. Et évidemment, c'est d'autant plus surprenant, et c'est le but de mon propos, de voir un peintre officiel avec le président de la République qui fait un discours avec des mots absolument dithyrambiques. On parle d'un chercheur d'or au milieu des ombres, on parle de laboureur de lumière, et on peut dire que la presse, d'une manière unanime, a encensé le peintre Soulages. Alors, évidemment, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, théoriquement, le monochrome est une peinture, on peut dire, est une anti-peinture, une peinture qui se veut comme du nihilisme, c'est-à-dire on nie la peinture traditionnelle. Donc, par exemple, un autre peintre, alors là, il s'agit de la deuxième partie du XXe siècle dans ce qu'on a pu appeler l'école de Paris, ou du moins dans des sortes de provocations aussi, Yves Klein qui a commencé à peindre des jeunes femmes nues en collant leur corps sur des toiles, et puis il a fait aussi des monochromes, alors le ciel était bleu, donc il était le maître du bleu, mais enfin le maître du bleu, c'est-à-dire qu'il faisait des monochromes bleus. Des peintures, après le blanc de Malevitch, on a eu des monochromes bleus. Alors, il y a une pièce très drôle de Yasmina Reza, talentueuse écrivain, qui s'appelle Art et qui est avec les artistes connus Luchini et Pierre Vanneck et Arditi, et c'est une pièce drôlatique sur le snobisme d'une peinture qui est au monochrome blanc avec, je crois, un peu dans l'esprit de fond blanc avec du blanc sur du blanc. Mais là aussi, c'est de la dérision. Alors, la pièce est une sorte de critique du snobisme par rapport à un artiste connu qui fait des monochromes. Alors, le surprenant, c'est que la foule des ministres, des directeurs de musées, des galeristes, des grands collectionneurs, de toutes les personnalités qui rendent hommage à Pierre Soulages et la presse unanime dans quelque chose qui est a priori totalement provocateur. On peint du noir. Alors on dit où il s'agit, c'est pas du noir, mais il y a de la lumière. Et non, alors il y a simplement du bitume qui est passé au sol avec une raclette sur des grands panneaux de toile tendue. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de Ned qui, on peut dire que, alors peut-être qu'au début c'était Soulages qu'il faisait lui-même, mais à 102 ans, non, il maniait pas le râteau pour étaler le bitume que l'on fait sécher sur les panneaux. Alors ça fait des reliefs, et ces reliefs, quand on remet le panneau une fois que c'est sec, droit, eh bien, on a des reliefs sur la toile, et puis on éclaire avec des spots, et on a de la lumière qui montre les reliefs. Alors on appelle ça le peintre de la lumière, mais enfin non, on étale du bitume noir sur une toile, puis on fait du relief. Alors on serait plus près de la sculpture, puisque la toile, le propos de la toile, c'est être en deux dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc là, on est sur un travail qui est essentiellement un travail en trois dimensions, c'est-à-dire on est comme des bas-reliefs. Alors des bas-reliefs, on a dans l'histoire, il y a les portes du baptistère de Florence par les sculpteurs qui ont sculpté dans le bronze des motifs. Bon, mais toute l'histoire depuis les Égyptiens avec les gravures qui sont faites avec des éléments gravés dans la pierre qui font que la lumière dessine les personnages et les représentations. Puis bon, la gravure aussi qui s'est faite sur du bois, impression qui s'est faite aussi sur du cuivre. En fait, bon, c'est rien de très nouveau. Alors là, il s'agit par contre de reliefs qui sont faits sur une toile, mais effectivement qui ne sont pas, à mon avis, de la peinture. Donc, quand on parle de peintre pour Cézanne, on peut déjà se questionner. Alors, on a parlé de trésor national, de géant de l'art. Je crois que on avait des termes absolument, encore une fois, dithyrambiques, et ce qui me surprend, c'est justement l'absence totalement de questionnement et de critique par rapport à un art qui est quand même assez confidentiel, même si le musée Soulages, qui a été financé par l'État, région, ville, État, du vivant de l'artiste, a permis, et j'avais parlé de cela comme quelque chose qui me paraissait assez surprenant, a permis à la cote de l'artiste sur la fin de sa vie d'arriver à des sommets et d'être décuplé, ce qui me paraissait assez choquant comme procédé. Alors, évidemment, il n'est pas autorisé de parler de cela puisque on aurait le recueillement qui est dû aux morts, mais je me permets de faire cela et surtout, comme je vous disais, de souligner l'étrangeté d'une peinture qui est abstraite, donc qui ne porte pas le sens du figuratif. Alors, l'abstraction, c'est quelque chose qui, on peut dire, est rentré aussi dans notre imaginaire. Mais d'une manière quand même déjà plus confidentielle. On peut dire qu'on ne voit pas quand même, on voit de l'abstraction dans les bureaux du ministre quand on voit les photos, parce que c'est plus facile d'avoir de l'abstraction que d'avoir des personnages, parce qu'on dira, ah, vos personnages, mais vous avez, je ne sais pas, une femme nue, des choses que l'on voyait au 19e siècle et qui aujourd'hui, ou même au 20e siècle, ou de la première partie. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus discrètes. Alors évidemment, avec l'abstraction, on ne risque pas d'avoir de critiques sur le sens de ce que l'on montre dans son propre bureau ou dans les lieux publics. Donc je pense que les élus ou les gens de pouvoir qui montrent de l'abstraction dans leur lieu de travail et dans leur lieu public chez eux ne l'ont pas, et on le voit rarement dans les intérieurs. Mais en ce qui concerne le noir de Soulages, vraiment, il s'agit de quelque chose de assez surprenant dans cette unanimité. Et puis, je me permettrai de dire que je ne vois pas la lumière dans le tableau lui-même, mais une lumière qui est faite par un effet extérieur qui est celui de spot, et que quand ces spots ne sont pas l'axe qu'il faut, eh bien, les peintures sont relativement plates, et les motifs, puisqu'ils ne sont pas différenciés de la matière, ne se voient pas. Voilà, donc c'était l'impertinence que vous me pardonnerez bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Ne sont pas l'axe qu'il faut, eh bien, les peintures sont relativement plates, et les motifs, puisqu'ils ne sont pas différenciés de la matière, ne se voient pas. Voilà, donc c'était l'impertinence que vous me pardonnerez bien. Je vous souhaite une bonne semaine.